Beaucoup savent ce que signifie être déçu par un être cher. Parfois, des personnes jouent avec les sentiments d'autrui sans rien ressentir en retour. Mais il y a toujours ceux qui franchissent toutes les limites. Dans cette histoire, l'avidité et la cruauté ont atteint de tels sommets qu'elles ont conduit à des conséquences irréparables. Le 24 décembre 1988, un signalement est parvenu au commissariat de police en Arizona. Dans une région désertique du comté de Pénal, près des montagnes de la Superstition, des passants ont découvert une jeune femme dans un état grave. Elle portait des vêtements ordinaires, n'avait ni sac ni documents, ce qui rendait difficile l'établissement de son identité. Une profonde blessure était visible sur la jambe de la victime. Ses vêtements étaient tout souillés. Il y avait de nombreuses blessures au niveau du cou. Tous ses vêtements étaient imprégnés des traces de l'incident. L'examen médical a révélé que les blessures étaient bien plus graves qu'il n'y paraissait aux témoins. Des plaies profondes affectant la colonne vertébrale ont été découvertes dans la région du cou. 4 autres blessures concernaient les côtes et la poitrine. Une attention particulière a été accordée à des marques à peine visibles de forme rhomboïdale sur la tempe gauche et le sourcil. L'enquêteur a supposé qu'elle pouvait avoir été laissée par une semelle de chaussure. Les spécialistes ont découvert des empreintes similaires sur le lieu de la découverte. Les enquêteurs ont supposé que l'auteur était à chercher dans l'entourage proche de la victime, mais son identité restait inconnue. Cependant, la situation s'est éclaircie le même jour, lorsqu'un appel est parvenu au commissariat du district. Cathy Monkman signalait la disparition de sa sœur aînée. La femme disparue s'appelait Cindy Monkman. Katie a raconté que sa parente n'était pas venue à la fête de Noël prévue pour la veille de la veillée. Cela paraissait étrange, car Cindy avait elle-même aidé à organiser la rencontre, mais n'avait informé personne de son absence. Ensuite, elle a cessé de répondre aux appels. Cathy ne s'est pas immédiatement adressée à la police, pensant que les plans de sa sœur avaient pu changer. Cependant, elle devait prendre l'avion ensemble pour l'Illinois le lendemain. Cathy a laissé une note avec les informations sur le vol et le billet. Jusqu'à l'heure du départ à 7h30 du matin, elle espérait que Cindy apparaîtrait, mais quand Cathy a pris place dans l'avion et n'a pas vu sa sœur à côté d'elle, elle a compris quelque chose de grave était arrivé. La description de la personne disparue correspondait parfaitement à la personne non identifiée trouvée, tout comme le cadre temporel. Cindy avait disparu seulement un jour avant d'être retrouvée dans le désert. En tant que détails inhabituels, les enquêteurs ont appris qu'elle avait récemment épousé de façon inattendue un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques mois. Après avoir pesé tous les faits, les forces de l'ordre ont conclu que la personne retrouvée était Cindy Monkman, âgée de 30 ans. Plus tard, une parente a confirmé l'identité et les dossiers dentaires ont définitivement dissipé tous les doutes. Cindy est née le 16 septembre 1958 à Pensacola, État de Floride. Un an plus tard, sa sœur cadette est venue au monde. Dès leur plus jeune âge, les filles étaient inséparables. Leur père Jack travaillait comme psychologue. Et leur mère Dorothy s'est consacrée au foyer après la naissance des filles. 2 ans plus tard, la famille s'est agrandie avec l'arrivée du frère John. La famille a déménagé à Champaign, État de l'Illinois, où le chef de famille avait été invité à travailler. Le destin de cette famille unie ne s'est pas révélé particulièrement heureux. Alors que Cindy était encore très jeune, en 1963, une grave maladie a été diagnostiquée chez sa mère. 2 ans plus tard, malgré tous les efforts du père, Dorothy est décédée. Jack est resté seul avec 3 jeunes enfants. Bien que ce ne fût pas facile, l'homme a réussi, avec l'aide de ses proches, à élever ses enfants. Il faisait souvent des voyages spontanés pour rencontrer des amis et des connaissances dans différents états. En 1980, Cathy a décidé de déménager à Mesa, État d'Arizona, pour devenir infirmière. Cindy l'a suivie. 2 ans plus tard, l'héroïne de l'histoire a obtenu un master en santé publique et a commencé sa carrière comme conseillère en nutrition. En 1983, à l'âge de 25 ans, Cindy a connu une progression de carrière. On lui a proposé de diriger un centre de santé dans une grande entreprise du Minnesota. Cindy a décidé de saisir cette opportunité, bien que cela signifiait déménager loin de sa sœur, dont elle avait toujours été très proche. Après avoir acquis de l'expérience professionnelle et lassée de la solitude, elle est revenue en 1986 et s'est installée près de sa sœur. Cindy avait une apparence remarquable et attirait toujours l'attention. De nombreux admirateurs s'empressaient constamment autour d'elle. Peu après son retour, elle a rencontré Mark, qui travaillait comme disc jockey à la radio. C'était une célébrité locale, et une relation s'est développée entre eux. Le couple menait une vie active, fréquentait souvent des fêtes, mais leur relation était instable. Mark voulait continuer à s'amuser tandis que Cindy s'enlaçait. Elle rêvait de fonder une famille. Elle comprenait qu'elle ne pourrait pas construire avec lui l'avenir dont elle rêvait. En juillet 1988, Cindy a proposé de se séparer et après la rupture, elle a traversé une période difficile. Pour se distraire, elle est partie en vacances à la plage en Californie avec sa sœur. Malgré la séparation, des sentiments subsistaient entre les jeunes gens. Le 8 octobre 1988, Cindy a rencontré deux frères lors d'une fête dans un club populaire, Michael et Rudy Appelt. Ils ont passé toute la soirée ensemble et ne se sont pas quittés. Cathy observait la scène et comprenait que sa sœur était tombée amoureuse au premier regard. Les frères parlaient pas mal l'anglais, ce qui rendait la communication difficile. Cependant, comme Cindy l'a elle-même remarqué, ils étaient sur la même longueur d'onde et se comprenaient parfaitement sans mots. Dès le lendemain, au petit déjeuner avec sa sœur, elle ne parlait que de Michael. Cindy a même mentionné qu'il lui avait fait plusieurs demandes en mariage. En entendant cela, Katie était assez sceptique face à cette déclaration bruyante juste après la première rencontre. Mais Cindy l'a rassurée et a expliqué que c'était simplement une méthode appropriée pour se distraire après l'échec avec Mark. L'amie d'Annette, avec qui les filles étaient moins venues au club, a fait la connaissance du second frère. Bientôt, la relation s'est développée rapidement. Même pas une semaine ne s'était écoulée que Rudy emménageait chez Annette et Michael chez Cindy. Tout s'est passé si vite que Katie ne pouvait pas croire à des changements aussi brusques dans la vie de sa sœur. Selon elle, c'était des décisions précipitées qui ne mèneraient à rien de bon. La relation a duré jusqu'au 17 décembre, lorsque Cindy s'est rendue au mariage d'une amie avec son nouveau petit ami. Là, les filles ont remarqué une bague de fiançailles à son doigt. Il s'est avéré qu'elle et Michael étaient déjà mariés. Plus tard, Cindy a raconté à sa sœur que la cérémonie avait eu lieu le 28 octobre, seulement 3 semaines après leur rencontre. Katie a été choquée par ce tournant inattendu dans le comportement de Cindy. Pour la première fois, il y avait un secret entre les sœurs. Et maintenant, ils ont découvert sa silhouette immobile. Les enquêteurs ont examiné les rares indices trouvés après l'incident avec la jeune femme. Parmi eux, des traces de pneus dans le sol sablonneux du désert. De toute évidence, on l'avait intentionnellement amenée ici pour s'en débarrasser et l'abandonner dans cette région déserte. L'auteur espérait probablement qu'on ne la découvrirait jamais. Mais son plan a échoué. Et Cindy a été découverte par hasard. Après avoir examiné les événements des derniers mois dans la vie de la victime, les enquêteurs ont supposé que de nouvelles relations ou un ancien petit ami offensé pourraient être liés à cet incident. La cruauté particulière de l'agresseur suggérait le caractère personnel de ce qui s'était passé. Outre les traces de pneus, on a trouvé des empreintes de pas, un morceau de corde en nylon et une serviette de plage imbibée d'un liquide rouge. Les enquêteurs ont continué à s'entretenir avec les proches de la victime et à analyser son entourage. Quelques semaines avant la rupture, Cindy avait reçu un message inquiétant concernant l'une des anciennes petites amies de Mark. L'enquête sur cette affaire était encore en cours. Tout cela éveillait des soupçons. Cathy savait que l'ex-petite amie avait essayé de restaurer sa relation avec Cindy. Ils avaient littéralement communiqué 3 jours avant l'incident. Une dispute avait éclaté entre eux lorsque la jeune femme avait annoncé son mariage. Elle avait réussi à désamorcer la situation. Mais Mark avait déclaré qu'il viendrait en ville pour Noël et avait proposé à Cindy de se rencontrer. Elle avait accepté. Le matin, Michael a appelé Cathy, criant au téléphone et essayant de découvrir où se trouvait sa femme. Il était évident qu'il n'était pas sobre. La jeune femme a essayé de savoir quand il avait vu sa sœur pour la dernière fois, mais en raison de la barrière linguistique, cela n'a pas été possible. Cathy a alors demandé à Annette d'aller à l'appartement et de parler à Michael. Quand l'ami est arrivé, il s'est avéré qu'il dormait simplement sur le canapé et ne pouvait pas être réveillé. Lorsque Cathy s'est souvenue des projets de Cindy de rencontrer Mark, elle a supposé que sa sœur avait pu partir avec son ancien amant. Cathy a visité l'appartement de Cindy dans l'espoir de trouver des indices sur le sort de sa sœur, mais sans succès. Lorsque les enquêteurs ont interrogé tous les impliqués dans cette situation complexe, leurs témoignages correspondaient en grande partie au récit de la sœur cadette de la disparue. Les soupçons ne subsistaient qu'envers l'ex-petite amie Mark et le mari actuel Michael. Des photos de Cindy sont apparues dans tous les médias et ses proches ont reçu une lettre qui avait été postée peu avant le voyage prévu. Cela a créé un sentiment étrange, car ils connaissaient déjà l'incident. Dans la lettre, la jeune femme parlait de sa relation avec son mari et exprimait le souhait que sa famille le rencontre et apprenne à mieux le connaître. Une conversation complète avec Michael n'a pas pu avoir lieu immédiatement en raison de difficultés linguistiques. Le jour où les proches de Cindy ont appris ce qui s'était passé, l'un des enquêteurs a été envoyé pour parler avec le veuf tout récent. Il n'avait pas d'expérience dans l'enquête sur des incidents graves, mais a été choisi en raison de sa maîtrise fluide de l'allemand. Michael n'a pas ouvert la porte pendant longtemps et a ensuite été surpris qu'il y ait un employé à la police qui parlait sa langue maternelle. L'enquêteur s'intéressait particulièrement à la séquence des événements du 23 décembre. Selon Michael, cette journée était tendue dès le début. Ensuite, ils ont loué une Subaru et sont rentrés chez eux. La jeune femme a passé le reste de la journée à préparer ses affaires pour le voyage imminent. Elle a également informé de ses projets de rencontrer des amis vers 10 heures du soir. Michael a affirmé qu'il prenait une douche vers 7 heures lorsqu'il a entendu sa femme parler émotionnellement au téléphone avec quelqu'un. La conversation était assez tendue. Malheureusement, il n'a pas pu comprendre qui appelait car il entendait mal l'interlocuteur et ne pouvait pas saisir les noms. Lorsque son épouse a terminé la conversation, elle a simplement dit à voix haute qu'elle devait s'occuper de quelque chose et elle est partie sans explication, tandis que son mari continuait à se doucher. Cindy a pris les clés et son sac à main et n'est jamais revenue. Michael a dû aller au restaurant sans elle avec des amis et son frère. Il a volontiers aidé à l'enquête, a autorisé la fouille de l'appartement et de la voiture. De plus, il a présenté un reçu du restaurant daté du 23 décembre 1988. Lorsque les forces de l'ordre ont écouté les enregistrements sur le répondeur, un message a attiré leur attention. À 10 heures du matin, Mark avait laissé un message vocal disant qu'il avait vu aux informations une fille qui ressemblait à Cindy. Il a mentionné qu'il avait entendu parler de sa disparition. L'ex-petite amie a exprimé son inquiétude et a demandé à ce qu'on le rappelle pour s'assurer que tout allait bien. Compte tenu du fait qu'il se trouvait dans un autre état, il était étrange que Mark ait vu si rapidement les reportages d'information. Selon les calculs des enquêteurs, les reportages commençaient tout juste à être diffusés à ce moment-là. Cela a éveillé des soupçons, comme si le jeune homme essayait de se créer un alibi. Ironiquement, Michael ne comprenait toujours pas ce qui était arrivé à sa femme en raison de la barrière linguistique. Lorsqu'il a été emmené au poste avec son frère et Annette et qu'on leur a dit ce qui s'était passé, il a montré de fortes émotions. Il pleurait et criait et essayait de comprendre ce qui s'était passé. Ensuite, tous les trois ont été placés dans des salles d'interrogatoire séparées, des échantillons ont été prélevés pour analyse et leurs chaussures ont été vérifiées. Après confirmation de leur alibi, tous ont été libérés car leur implication semblait improbable. Des questions ne subsistaient qu'au sujet de l'ex-petite amie nommée Mark, dont le comportement suscitait des soupçons. L'enquêteur principal s'est envolé pour la Californie pour un entretien personnel avec l'animateur radio. Pendant ce temps, Mark a appelé plusieurs fois le numéro privé de Cindy en Illinois et a laissé de nombreux messages sur le répondeur, apparemment en essayant de comprendre la situation. À son arrivée sur les lieux, L'enquêteur a constaté que Marc était à son lieu de travail le jour de l'incident, puis avait loué une voiture et s'était rendu chez des parents à Los Angeles pour les fêtes de Noël. À l'étonnement du représentant de la loi, cette information s'est confirmée. Il s'est avéré que Marc ne pouvait avoir rien à voir avec l'incident de Cindy, ce qui fut un choc pour l'équipe d'enquête, convaincue d'avoir déjà trouvé le coupable. La cérémonie d'adieu à Cindy a été fixée au dernier jour de l'année 1988. Pendant la cérémonie, lorsque le microphone a été transmis à son mari, Michael n'a pas pu prononcer un seul mot à cause des sentiments accablants. Il est simplement resté là et a pleuré jusqu'à ce que son frère Rudy l'emmène à l'écart. Cependant, plus tard, lorsque les personnes présentes sont parties, Cathy est passée devant la voiture dans laquelle se trouvaient les frères. Elle a remarqué qu'ils riaient joyeusement avec Annette. Cela semblait étrange. La sœur de Cindy se sentait mal à l'aise, car récemment encore, le mari semblait complètement abattu par le chagrin. Maintenant, on avait l'impression que Michael ne faisait que jouer le rôle de l'endeuillé. Ensuite, les forces de l'ordre ont décidé de parler à nouveau avec tous les impliqués, car quelque chose ne concordait pas. Cathy est arrivée la première au commissariat et a relaté plus en détail les relations romantiques avant l'incident. Maintenant, les enquêteurs trouvaient suspect que les frères venus d'Allemagne soient très discrets sur tout ce qui concernait leur passé et leurs activités. Une amie s'est souvenue d'un incident. Quelques jours après leur rencontre, elle les a aperçus se dirigeant vers un motel bon marché, alors qu'ils avaient auparavant prétendu loger dans un hôtel prestigieux et travailler dans le secteur bancaire. Après leur première visite dans l'appartement de Cathy, elle a découvert qu'il manquait 100 dollars en espèces. Après quelques semaines de fréquentation, ils ont raconté une histoire peu convaincante sur un licenciement de la banque et ont pratiquement persuadé les filles de les accueillir. Ils prétendaient attendre le déblocage de leur compte, après quoi ils pourraient à nouveau vivre grandement. Une autre bizarrerie résidait dans l'exigence de garder secret le mariage avec Cindy. Seulement une semaine après son emménagement chez Cindy, Michael a déclaré qu'il serait expulsé vers l'Allemagne s'il ne se mariait pas d'urgence. Ce fut la raison de la cérémonie secrète précipitée à Las Vegas. Un tableau inquiétant se dessinait. Apparemment, le jeune homme, en exploitant ses sentiments, avait obtenu un mariage par manipulation. Les enquêteurs ont tenté de retracer l'histoire des frères et ont découvert plusieurs femmes avec lesquelles ils étaient en sortie après leur arrivée d'Allemagne. Il s'est avéré que la victime n'était pas la seule à avoir reçu une demande en mariage. Il semblait que la relation entre Cindy et Michael avait mieux réussi que les tentatives précédentes. La présence de ces objets a éveillé des soupçons. Dans le journal intime trouvé de Cindy, la dernière entrée datait du 11 novembre. Il semblait que la jeune fille essayait de se convaincre de l'honnêteté de son mari. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve reliant les frères ou d'autres proches à l'incident. Ils ont même trouvé une voiture qui avait été louée le jour de la disparition de Cindy. Mais les traces de ses pneus ne correspondaient pas aux empreintes sur le lieu de l'incident. L'examen de l'intérieur du véhicule des frères avec des réactifs spéciaux n'a pas non plus donné de résultats. De façon inattendue, le 3 janvier, Michael a contacté un enquêteur maîtrisant l'allemand et a signalé un étrange message sur le répondeur qu'il avait découvert en rentrant dans l'appartement après la cérémonie d'adieu. Le veuf pensait que c'était une menace, mais ne pouvait pas la traduire avec précision. C'est pourquoi il a demandé de l'aide. Le 4 janvier, il est apparu au commissariat avec cet enregistrement. Il s'est avéré que l'inconnu menaçait effectivement de nuire à tous les proches et à Michael lui-même s'il n'obtenait pas certaines choses. Le message contenait des erreurs atypiques pour la langue anglaise et lors d'une traduction littérale en allemand, le texte sonnait beaucoup plus naturel. Les enquêteurs ont feint l'inquiétude, mais à ce moment, les soupçons s'étaient déjà renforcés contre Michael, Rudy et Anne, qui parlaient également allemand. L'appartement où vivait ce groupe a été placé sous surveillance constante. Le 5 janvier, les policiers qui surveillaient la maison ont remarqué les jeunes gens à 17h30. À 20h30, un enquêteur sous couverture a frappé à la porte. Michael ne le connaissait pas. L'employé portait des vêtements normaux et a prétendu s'être trompé d'adresse. Le groupe a été invité au poste pour le lendemain afin de créer des portraits robots de ces personnes inventées. Michael a été interrogé pendant plusieurs heures, tandis que les autres attendaient leur interrogatoire. Les enquêteurs ne se pressaient pas intentionnellement et observaient attentivement les suspects, attendant qu'ils montrent des signes de faiblesse. Annette a cédé la première. Au début, elle a nié toute implication. Mais lorsqu'un des enquêteurs lui a montré des photos du lieu de l'incident, elle a finalement commencé à parler. Annette a avoué que Michael et Rudy agissaient aux États-Unis et ciblaient des femmes vulnérables au cœur brisé dans le but d'obtenir la citoyenneté. Ils ont également rencontré Cindy selon le même scénario. Après avoir vécu plusieurs mois dans un hôtel bon marché, ils ont trompé de nombreuses femmes qui succombaient à l'attrait extérieur et au charme des escrocs. Cela leur permettait d'obtenir facilement des moyens de subsistance, mais ils espéraient à plus. Annette n'a pas avoué d'implication dans l'incident avec Cindy et a même nié qu'il ait été planifié. Cependant, il est devenu clair que le contact avec Cindy Monkman avait des motivations intéressées. Après le début de la cohabitation et du mariage, Cindy travaillait à deux emplois, tandis que Michael, sans emploi, gaspillait l'argent et racontait des fables sur des comptes bloqués en Allemagne. D'octobre à décembre, il a dépensé plus de 4 000 $ de Cindy. Après avoir obtenu ses aveux, les enquêteurs ont fait pression sur Annette et lui ont expliqué qu'elle serait accusée comme complice si elle ne disait pas toute la vérité. La jeune fille a avoué que Michael, après avoir goûté à la belle vie, voulait plus d'argent. Ensuite, il a élaboré un plan plus ambitieux. Le 7 novembre, il a convaincu Cindy de contacter un agent d'assurance et de souscrire des polices d'assurance mutuelle d'$1 million. Naturellement, Michael a été désigné comme bénéficiaire de sa police. Il a continué à la tromper avec de fausses histoires, parlant de comptes gelés en Allemagne et affirmant que les assurances vie pour les couples étaient obligatoires dans son pays. Sous l'influence de ses sentiments, Cindy faisait confiance à son mari sans condition. L'agent d'assurance a approuvé la police, mais la somme n'était pas d'$1 million, mais seulement de $400 000. Cindy a signé le chèque sans hésiter. Les frères ont immédiatement commencé à rêver de leurs dépenses et attendaient un enrichissement rapide. La police d'assurance de Cindy est entrée en vigueur seulement 24 heures avant le jour fatidique et le montant du versement a été augmenté à $800 000. À ce moment, les frères avaient déjà loué une voiture pour mettre en œuvre leur plan dans le désert. Le jour de l'incident, Michael et Rudy ont emmené Cindy dans un endroit désert, l'ont attirée hors du véhicule et ont exécuté leur terrible plan. Ensuite, ils ont éliminé toutes les preuves, ont rendu le moyen de transport loué et sont allés dans un restaurant luxueux pour célébrer leur succès. Annette était pendant ce temps dans la voiture. Selon ses déclarations, les frères ont mis environ 5 minutes pour exécuter leur plan. À leur retour, leurs vêtements étaient souillés. Ils se sont changés et se sont rendus à nouveau présentables pour ne laisser aucune trace dans la voiture. Tout se déroulait selon le plan, et ce devait être un crime parfait qui promettait la richesse. Mais le plan a commencé à s'effondrer lorsque Cindy a été rapidement retrouvée. Michael a dû jouer le veuf endeuillé, bien qu'en réalité, il ne ressentit aucun chagrin. Les enquêteurs ont pris contact avec des collègues d'Allemagne et ont appris la vérité sur le passé de ces personnes. Il s'est avéré que Michael ne possédait ni compte bloqué avec de grosses sommes d'argent, ni propriété dont il avait parlé. En Allemagne, il travaillait comme ouvrier et avait des problèmes avec la loi, y compris des sanctions pour cambriolage et agression. Son frère Rudy avait purgé une peine dans une prison allemande pour comportement inapproprié envers une femme. Un lien des frères avec d'autres incidents aux États-Unis n'a pas pu être établi. Cindy était probablement leur unique victime. Il ne restait qu'une question incompréhensible. Pourquoi les traces de pneus du véhicule ne correspondaient pas aux empreintes trouvées? Il s'est avéré que Michael avait agi avec prévoyance. Le jour de l'incident, il avait intentionnellement conduit avec des dérapages prononcés pour endommager le profil. Lorsqu'il a rendu le véhicule loué, les pneus ont dû être remplacés. En discutant avec un employé de la location, les enquêteurs ont confirmé cette information. Pour la transmission des messages menaçants, ils ont engagé un sans-abri au hasard dans les rues de Los Angeles, où il s'était rendu après la cérémonie d'adieu. Ils l'ont payé pour qu'il appelle le numéro indiqué et lise le texte préparé. l'immunité pénale a été offerte à Annette en échange d'un témoignage contre les frères. La jeune fille a accepté. Lors d'une fouille approfondie de l'appartement de Cindy et Michael, ils ont découvert des chaussures dont les semelles correspondaient aux traces sur le lieu de l'incident. En détention, Michael a fait des notes contenant des informations incriminantes qui ont été utilisées contre eux par la suite. La décision la plus déraisonnable dans le procès a été le souhait de Michael de se défendre lui-même. Même les avocats ont essayé de l'en dissuader, mais sans succès. Il se croyait plus intelligent que tous les autres. Cette surestimation de soi a conduit à des déclarations contradictoires qui ont convaincu les jurés de son implication. Les frères ont tenté de rejeter la faute sur Annette, mais sans succès. Le 1er juin 1990, les jurés ont déclaré Michael et Rudy Appelt coupables. Tous deux ont été condamnés à une peine sévère. En 2009, cependant, la décision concernant Rudy a été modifiée, car un test d'intelligence a montré son retard de développement. Il a reçu une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération anticipée après 25 ans. En 2017, lors d'une séance de la commission, une lettre de Katie, la sœur de Cindy, a été lue. Elle a rappelé la gravité de l'acte de Rudy et a exprimé sa conviction de sa dangerosité. En conséquence, la demande a été rejetée. Le 26 avril 2022, Rudy est décédé derrière les barreaux. La sentence de Michael s'est restée inchangée. Il attend toujours l'exécution de sa peine. Ses défenseurs retardent délibérément le processus par des appels, prolongeant ainsi sa vie. Katie a avoué que ce qui est arrivé à Cindy l'a si profondément affectée qu'elle n'a pas pu faire confiance aux hommes et aux gens en général. Elle ne s'est pas mariée avant l'âge de 50 ans. Le cas de Cindy Monk ne peut être qualifié d'acte émotionnel. C'était un calcul F. Le cas de Cindy Monk ne peut être qualifié d'acte émotionnel. C'était un calcul froid de personnes pour qui une vie étrangère n'était qu'un moyen d'atteindre des objectifs matériels. Les compagnies d'assurance, cherchant à augmenter leurs profits et vendant une police d'un montant important, ont créé involontairement les conditions du crime en fournissant un motif financier. Les preuves suggèrent que les frères Appelt n'auraient probablement pas touché à Cindy si sa vie n'avait pas été assurée, mais auraient dirigé leur attention vers une autre personne. Cette histoire ne devrait pas être écoutée par les personnes trop sensibles. Même les policiers expérimentés, habitués depuis des années aux crimes les plus terribles, ont dû chercher une aide psychologique après ce qu'ils ont vu dans cette cave. Un matin d'octobre 2015, la petite ville en périphérie du New Hampshire vivait encore sa vie habituelle. Il se passait rarement quelque chose ici qui méritait l'attention, même du journal local. La monotonie et le silence semblaient tout faire partie de l'essence même de cet endroit. Les habitants locaux étaient habitués à ce que rien de vraiment terrible ne puisse arriver ici. Mais ce jour-là a changé à jamais la perception des citadins de leur petit monde sûr. La maison numéro 17 de la rue Chestnut était une vieille bâtisse sans attrait qui n'attirait plus l'attention de personne depuis longtemps. Elle se trouvait presque au bout de la rue, derrière un jardin négligé et une clôture à moitié détruite, et semblait oubliée de tous depuis longtemps. Les propriétaires changeaient presque chaque année. Certains essayaient de la réparer. D'autres la louaient simplement et partaient plus loin. Mais l'essentiel était le même. La maison était plus souvent vide qu'habitée. Le nouveau propriétaire, John Henderson, décida de s'attaquer sérieusement à la restauration de la maison, rêvant de s'y installer enfin pour longtemps. Dès le début, il comprit qu'il y avait beaucoup de travail à faire. La maison était restée abandonnée pendant près de 2 ans. Le sous-sol était rempli de vieux meubles, d'outils cassés et d'autres détritus inutiles. C'est pourquoi John décida de commencer précisément par là, par la cave, qui lui inspirait un sentiment particulièrement désagréable. Vers le soir, John descendit par le vieil escalier grinçant. Le faible éclairage permettait à peine de distinguer les objets, mais au milieu du chaos, il remarqua un objet étrange dans un coin. C'était un fût en métal, recouvert de profondes couches de rouille, comme s'il avait été délibérément caché derrière d'autres choses. Il tenta de le déplacer, mais il s'avéra lourd et presque impossible à soulever. Plus il regardait le fût, plus il ressentait une anxiété inexplicable. John n'était pas du genre peureux, mais il sentit maintenant qu'il ne voulait pas rester seul avec cette chose. Le lendemain matin, appelant un ami, il décida de comprendre cette étrange trouvaille. À deux, ils sortirent le fût à la lumière avec difficulté et tentèrent de l'ouvrir. Le couvercle semblait soudé au métal, mais après plusieurs tentatives, il céda finalement. C'est à ce moment précis que la vie de John se divisa en un « avant » et un « après ». Ce qu'il vit à l'intérieur resta gravé à jamais dans sa mémoire. Il sentit ses jambes flageoler et l'air dans la cave devint lourd et visqueux. Dans une couverture qui avait perdu ses couleurs depuis longtemps, se trouvaient des restes qui étaient restés là pendant de longues années. La vision fut si choquante que son ami courut instantanément à l'étage et, se retenant à peine, appela la police. Les premières voitures de police apparurent près de la maison quelques minutes plus tard. John était assis sur les marches de la maison, pâle et complètement perdu, répondant aux questions des enquêteurs de manière monosyllabique et confuse. Il était sûr que sa vie tranquille dans cette ville n'existerait définitivement plus. Mais le pire était encore à venir. Lorsque les policiers descendirent, ce qu'ils virent choqua même les agents les plus expérimentés. Les gardiens de l'ordre locaux, habitués aux disputes familiales et aux petits vols, restèrent figés, essayant de comprendre à quoi ils allaient être confrontés. Plus tard, alors qu'un des détectives discutait avec ses collègues, il dit « Nous pensions avoir tout vu, mais ce qu'il y avait dans ce fût a fait que beaucoup d'entre nous se sont demandé si nous ne travaillions pas dans la police depuis trop longtemps. Ce n'était pas simplement une autre scène de crime. » L'atmosphère même qui entourait la découverte était insupportable. Ça sentait l'humidité, la décomposition et quelque chose d'autre, difficile à expliquer, qui faisait ressentir aux personnes dans la cave une sensation de panique, presque physique. Un des jeunes officiers, après la première inspection, sortit en courant dans la rue et mit longtemps à se remettre. Un autre demanda à être immédiatement relevé de la suite du travail sur la scène de crime. C'est cet état que les journaux locaux décrivirent plus tard par une courte phrase en allemand. « Die Polizisten erlitten einen Nervenzusammenbruch bei dem Anblick. » Les policiers ont subi une crise de nerfs à cette vue. L'enquête, qui commença ce jour-là, se heurta immédiatement à un grave problème. Personne en ville n'était au courant de la disparition d'une personne à l'époque où cela s'était produit. Les policiers vérifièrent les archives des deux dernières décennies, interrogèrent les habitants locaux, mais partout, ils ne rencontrèrent que des regards surpris et des réponses négatives. Les gens commencèrent à chuchoter entre eux. La ville se remplit de rumeurs, mais aucune d'elles ne répondait à la question principale. Qui était-ce ? Des détails importants émergèrent un peu plus tard. Les experts indiquèrent une date approximative. Cela ne s'était pas produit hier, ni il y a un an, mais au milieu des années 90. Pendant plus de 20 ans, quelqu'un avait caché ce secret dans une maison ordinaire par laquelle étaient collées à passer des dizaines de personnes, sans rien soupçonner de l'horreur cachée littéralement sous leurs pieds. Les enquêteurs commencèrent à vérifier tous ceux qui avaient vécu dans la maison ou pouvaient y être liés d'une manière ou d'une autre. Le premier suspect fut l'ancien propriétaire qui avait soudainement vendu la maison à vil prix et quitté la ville sans explication. Son identité soulevait de nombreuses questions, mais l'essentiel n'était pas là. Plus la police étudiait la maison, plus elle découvrait d'étrangetés que personne n'avait remarquées auparavant. Il restait une autre personne qui suscitait des soupçons. Le voisin, un homme âgé et silencieux qui avait vécu toute sa vie de l'autre côté de la rue. Lors des interrogatoires, il répondait laconiquement, détournait le regard et répétait constamment qu'il ne savait rien. Mais c'est précisément dans son comportement que les policiers remarquèrent une nervosité cachée. La ville se figea dans l'attente. Le temps passait, la tension montait, et les gens comprenaient déjà que cette affaire ne ressemblerait à aucune autre. Le mystère était trop profond et trop sombre, et sa résolution changerait à jamais non seulement la petite ville, mais aussi le destin de tous ceux qui y vivaient. Mais l'essentiel était que cette découverte n'était que le début d'une longue et terrifiante histoire qui pousserait beaucoup à se demander « Connaissons-nous vraiment si bien ceux qui vivent à côté de nous ?» Les nouvelles de la découverte dans la maison numéro 17 se répandirent comme une traînée de poudre. Déjà le soir même, la rue Chestnut était pleine de voitures de journalistes et de badauds locaux. Cependant, un cordon fut bientôt établi autour de la maison derrière lequel personne n'était autorisé à passer. Les policiers étaient très clairement nerveux. Dans toute l'histoire de cet endroit, il n'y avait jamais eu de crime de ce genre. Pour une petite ville, qui ne voyait même pas souvent de vols importants, la découverte de restes de ce type fut un véritable choc. L'expertise commença immédiatement et les conclusions préliminaires des criminalistes furent annoncées dès le lendemain matin. Il s'avéra que cela s'était produit il y a environ 20 ans, au milieu des années 90. Ce détail laissa définitivement les enquêteurs perplexes. Comment était-il possible que pendant toutes ces années, personne n'ait remarqué la disparition d'une personne de cet âge? Il n'y avait pas eu de déclaration de disparition, pas de photos dans les archives de la police, pas même de rumeurs selon lesquelles quelqu'un avait cessé d'apparaître à l'école ou dans les rues de la ville. Celui qui avait été retrouvé dans la vieille maison semblait n'avoir jamais existé dans ce monde, et cela déconcertait même les policiers expérimentés. À ce stade de l'enquête, les détectives décidèrent d'étudier attentivement l'histoire de la maison elle-même. Elle avait été construite au début des années 1950, avait appartenu à la même famille pendant environ 30 ans, puis avait changé de propriétaire plusieurs fois. Les registres des archives municipales montrèrent qu'entre 1990 et 1996, la maison appartenait à un certain Patrick O'Connor, un homme réservé et silencieux dont les voisins ne se souvenaient presque de rien. Seule une vieille voisine, vivant à trois maisons de là, remarqua que M. O'Connor était soi-disant étrange et sortait très rarement de chez lui. Cependant, elle ne put fournir plus de détails. Lorsque la police commença à rechercher O'Connor lui-même, il s'avéra qu'il avait déménagé dans un autre état depuis longtemps, vendant la maison à la fin des années 90. Il l'avait vendue rapidement et à un prix assez bas. Ce fait éveilla les soupçons de l'enquête. Les détectives partirent à sa recherche, espérant obtenir des informations. Mais lorsqu'ils trouvèrent l'ancien propriétaire, déjà un homme âgé, il parut absolument sincèrement surpris. O'Connor répondit volontiers aux questions, parlait lentement, calmement, avec assurance. Il expliqua qu'il avait vendu la maison à bas prix parce qu'il avait un besoin urgent d'argent après son divorce et de la ville. Il ne voulait qu'une chose, la quitter au plus vite. Les détectives vérifièrent à chacune de ses paroles. L'alibi s'avéra irréfutable, confirmé par des documents. Pendant ce temps, les habitants locaux se souvenaient de plus en plus d'une autre personne, un vieil homme nommé Benjamin Sullivan, ce même voisin dont la maison se trouvait en face, de l'autre côté de la rue. Sullivan ne communiquait jamais avec ses voisins, préférant une solitude tranquille. Certains disaient que c'était un homme étrange. D'autres le considéraient simplement comme un vieux retraité inoffensif. Mais la police s'accrocha à sa silhouette non par hasard. Un des témoins affirma que dans les années 90, il avait remarqué à plusieurs reprises comment Sullivan se rendait chez O'Connor lorsque celui-ci n'était pas en ville. Les policiers rendirent visite à Benjamin Sullivan et le trouvèrent dans un état d'extrême irritation. Le vieil homme était clairement mécontent de leur apparition, mais fut obligé de répondre aux questions. Il admit qu'il surveillait parfois la maison pendant que O'Connor était en voyage d'affaires. Mais il nia y avoir vu quelqu'un d'étranger ou quelque chose d'inhabituel. Il parlait brusquement, tapotant nerveusement ses doigts sur la table, évitant le regard direct. Les policiers sentirent son malaise, mais le vieil homme refusa de donner d'autres explications. Les détectives revinrent plus tard, exigeant des échantillons pour comparer l'ADN, ce à quoi Sullivan refusa catégoriquement, déclarant qu'il ne voyait aucune raison de se soumettre au test, puisqu'il n'avait commis aucun crime. La tension montait. Le troisième jour de l'enquête, la police reçut les résultats de l'analyse ADN trouvée sur la couverture. La trace s'avéra être masculine et, étonnamment, ne correspondait ni à O'Connor, ni aux échantillons déjà présents dans la base de données de la police. Quiconque avait commis ce crime n'avait jamais été dans le radar des forces de l'ordre auparavant. L'enquête décida d'élargir le cercle de recherche. Ils commencèrent à vérifier tous les parents et connaissances des anciens propriétaires. Des enquêteurs des États voisins commencèrent à arriver en ville, menant des interrogatoires de plusieurs heures. On obligeait les gens à se souvenir de n'importe quel petit détail qui pourrait avoir de l'importance. Et là encore, ils se heurtèrent à un mur infranchissable. Personne ne pouvait donner ni le nom, ni le prénom, ni même le lieu approximatif d'où la victime aurait pu venir. La police commença à étudier l'environnement de la maison dans les années où, probablement, tout s'était passé. Ils consultèrent les archives des appels téléphoniques, vérifièrent les transactions financières d'O'Connor et de ses voisins. Mais tout semblait propre et lisse, sans le moindre indice. Pendant ce temps, l'atmosphère dans la ville devenait de plus en plus lourde. Les gens ne cachaient plus leurs peurs et leurs tensions, évitèrent la communication, commençaient à s'enfermer chez eux. Il semblait que chaque détail du passé pouvait être la clé pour percer ce mystère terrifiant qui avait vécu si longtemps parmi eux sans être remarqué par personne. Finalement, la police obtint l'accès à de vieilles photographies des voisins et à des documents d'archives. Parmi les clichés jaunis, apparut de manière inattendue un homme que personne n'avait remarqué auparavant. Un homme grand, debout à côté d'O'Connor. Personne ne pouvait dire qui c'était. La police décida de le retrouver, mais découvrit bientôt que cet homme était mort dans un accident de voiture à la fin des années 90. La ville, plongée dans la peur et l'anxiété, commençait progressivement à réaliser qu'elle était confrontée à une histoire qui n'appartenait pas à la catégorie des crimes simples. C'était une histoire où même les policiers sentaient le sol se dérober sous leurs pieds. Personne ne comprenait encore à quel point l'abîme qui s'était ouvert sous la maison numéro 17 était profond et sombre. Mais il était déjà évident. Ce n'était vraiment pas pour les âmes sensibles. Mi-novembre 2015, la petite ville nichée au cœur des épaisses forêts du New Hampshire s'enfonçait dans une attente pesante de réponses qui ne venaient pas. Les gens avaient même cessé de partager les rumeurs entre eux, craignant de prononcer à voix haute ce qui les effrayait le plus. Un meurtrier avait vécu à leur côté pendant toutes ces années. Pendant ce temps, les détectives cherchaient le moindre indice dans le passé, épluchant de vieilles photographies, des documents oubliés et les témoignages de personnes ayant quitté cet endroit depuis longtemps. La maison numéro 17 de la rue Chestnut restait le centre de l'attention policière, bien que les policiers eux-mêmes fussent las de l'impasse interminable dans laquelle se trouvait l'affaire. Le commissaire de police du comté avoua lors d'une réunion à huis clos qu'en 20 ans de carrière, il n'avait jamais été confronté à une enquête aussi complexe. Il déclara ouvertement à ses collègues « Nous devons nous préparer à ce que cette affaire reste non résolue. » Mais personne ne voulait admettre la défaite à voix haute. Les enquêteurs décidèrent alors de retourner aux vieilles archives, dans l'espoir d'avoir manqué un petit détail auquel ils n'avaient pas prêté attention auparavant. Et effectivement, à leur grande surprise, ils découvrirent une photographie prise vers le milieu des années 90. Sur la photo se trouvaient trois hommes. L'ancien propriétaire de la maison, Patrick O'Connor, son frère Thomas O'Connor et un inconnu qui n'était jamais apparu dans le champ de vision de la police jusqu'alors. L'homme était grand, avec une expression maussade, et se tenait légèrement en retrait des autres, comme s'il ne voulait pas être sur la photo. La vérification de cette photographie commença. Patrick O'Connor confirma que près de lui se trouvait son frère cadet Thomas, décédé dans un accident de voiture en 1998. Mais il ne put ou ne voulut pas se souvenir du nom du troisième homme. Les détectives sentirent son embarras, mais Patrick insista sur le fait qu'il connaissait à peine cet homme, rejetant silencieusement toutes les tentatives de l'enquête pour obtenir plus d'informations de sa part. La police se tourna alors vers un détective senior à la retraite qui avait travaillé dans la ville dans les années 90. Le vieux détective regarda longuement la photo, puis se souvint à contre-cœur du nom du troisième homme. C'était Gregory Miller, un homme arrivé dans la ville au début des années 90 depuis l'État du Vermont. Miller travaillait comme ouvrier sur des chantiers, changeait souvent de lieu de résidence et restait rarement au même endroit plus de quelques mois. après 1997, personne ne l'avait revu en ville. La police se concentra désormais sur la recherche de Gregory Miller. Les enquêteurs supposèrent que c'était peut-être cet homme qui avait laissé son ADN sur la couverture. Des demandes furent envoyées à plusieurs États voisins. Des bases de données furent vérifiées et des dizaines de personnes furent interrogées. Finalement, Miller fut retrouvé dans une petite ville du Massachusetts, où il travaillait comme mécanicien dans un garage automobile. Lorsque les détectives le rencontrèrent, Miller parut déconcerté et sincèrement surpris. Il confirma immédiatement qu'il avait bien vécu dans la ville, rue Chestnut, et qu'il était allé plusieurs fois rendre visite aux frères O'Connor. Mais il nia toute implication dans quelque chose de grave. Miller raconta que les frères se disputaient constamment et que leur relation était très tendue. Il se souvint d'avoir surpris un jour Thomas O'Connor en état d'ébriété avancé, menaçant son frère. Mais il se tut rapidement et déclara qu'il ne voulait plus rien dire sans avocat. Les détectives obtinrent un échantillon de son ADN et retournèrent au New Hampshire. Pendant ce temps, les habitants de la ville mentionnaient de plus en plus le nom de Thomas O'Connor. Plus on se souvenait de lui, plus des histoires sombres et désagréables refaisaient surface. Il s'avéra que Thomas était une personne agressive et conflictuelle, abusait souvent de l'alcool et avait été arrêté plusieurs fois pour des délits mineurs dans d'autres États. Mais tous ces détails avaient été cachés aux habitants par sa famille, qui tentait de préserver une apparence de bien-être. Patrick O'Connor fut de nouveau convoqué par la police. Cette fois, l'interrogatoire fut dur et prolongé. Les policiers insistèrent pour qu'il révèle enfin les détails du conflit avec son frère. Patrick resta longtemps silencieux, puis raconta finalement que Thomas était effectivement venu plusieurs fois chez lui dans un état de grande agitation, exigeant de l'argent et l'accusant d'avoir ruiné sa vie. La dernière fois qu'il avait vu son frère, c'était peu avant sa mort, mais il ne savait rien des crimes terribles que Thomas aurait pu commettre. Quelques jours plus tard, les résultats de l'analyse ADN de Gregory Miller arrivèrent. Le résultat fut négatif. Miller était innocent et l'enquête revenait à nouveau au point de départ. Une tension sourde régnait de nouveau dans la petite ville. Les habitants locaux, las de l'incertitude, commencèrent à s'éviter. Même ceux qui ne croyaient auparavant à aucune rumeur fermaient désormais leurs portes à double tour, nerveux au moindre bruit fortuit à l'extérieur. L'atmosphère de peur s'empara même des plus confiants et des plus calmes. La maison numéro 17 restait désormais scellée. Beaucoup l'évitaient, craignant même de jeter un coup d'œil dans cette direction. Les anciens du village chuchotaient des détails qui semblaient auparavant sans importance. Des bruits étranges la nuit, une lumière vacillante aux fenêtres, des silhouettes de personnes apparaissant et disparaissant près de la maison. Mais la police comprenait déjà clairement que tous ces petits détails ne mèneraient à rien de concret. L'enquête piétinait, se convainquant à chaque nouvelle vérification, à chaque nouveau témoin interrogé, que derrière toutes les preuves se cachait quelque chose de plus grand, d'insaisissable, de bien plus effrayant qu'un simple crime. Il semblait que la maison de la rue Chestnut gardait un secret qu'il serait peut-être impossible de percer un jour. C'est cela qui faisait ressentir aux policiers, même expérimentés, un poids et une fatalité à la vue des dossiers remplis de rapports interminables et de photographies où se trouvait une vie étrangère et où ne restait plus qu'une énigme sombre et non résolue. Le temps passait. Et la petite ville en périphérie du New Hampshire s'enfonçait toujours plus profondément dans les eaux sombres d'une attente anxieuse. Les habitants, depuis longtemps las de l'enquête interminable, évitèrent de se regarder dans les yeux, comme si chacun d'eux pouvait être impliqué dans les événements d'il y a 20 ans. Cependant, malgré les efforts de la police, l'affaire restait non résolue et semblait buter contre un mur invisible. À ce moment-là, les enquêteurs commencèrent à examiner de plus près l'entourage immédiat de la maison numéro 17. L'une des figures clés redevint le voisin d'en face, Benjamin Sullivan. Sullivan, un homme âgé qui avait vécu toute sa vie dans cette maison, changea soudainement radicalement de comportement. Lorsque la police tenta de nouveau de lui parler, il se montra pour la première fois agressif, refusant l'entrée au détective. Un tel comportement surprit la police. Auparavant, il était réservé et froid, mais maintenant il exprimait ouvertement son hostilité. Sullivan déclara qu'il était fatigué des questions et ne dirait rien sans avocat. Lorsqu'on lui demanda un échantillon d'ADN, l'homme refusa catégoriquement, expliquant qu'il n'avait pas à se justifier d'un crime qu'il n'avait pas commis. Les enquêteurs décidèrent de vérifier ce qui préoccupait tant Sullivan et consultèrent les archives de la ville. Il apparut bientôt que la famille Sullivan vivait ici depuis plusieurs générations, et son passé s'avéra loin d'être aussi propre qu'il y paraissait à première vue. Les voisins se souvenaient que le grand-père de l'actuel propriétaire de la maison était un homme extrêmement renfermé et même sombre, et que le père de Benjamin avait été arrêté une fois par la police pour agression sur un voisin, mais s'en était tiré avec une amende et une peine avec sursis. Benjamin lui-même avait grandi silencieux et renfermé, préférant la solitude même dans son enfance, ce qui suscitait parfois l'inquiétude parmi les habitants de la ville. Les détectives décidèrent de vérifier les liens de Sullivan avec la maison numéro 17 et contactèrent l'ancien propriétaire, Patrick O'Connor. Au cours d'un nouvel interrogatoire, Patrick se souvint soudain que le voisin lui avait effectivement proposé à plusieurs reprises de vendre la maison, arguant qu'il voulait soi-disant réunir les terrains. O'Connor avait refusé, car il ressentait une étrange aversion pour Sullivan et ne voulait rien avoir à faire avec lui. C'est précisément après l'un de ses refus que Sullivan se serait fortement fâché, aurait déclaré que Patrick regretterait sa décision et lui aurait littéralement claqué la porte au nez. Ces témoignages devinrent un motif d'arrestation. Un jour gris de décembre, des voitures de police apparurent devant la maison de Sullivan et Benjamin lui-même fut emmené au poste pour un interrogatoire officiel. La ville fut instantanément saisie d'inquiétude car pour la première fois depuis de nombreuses années, la police nommait ouvertement un suspect. Sullivan répondit froidement et brièvement, niant tout lien avec le crime. Lorsqu'on lui proposa de nouveau de se soumettre volontairement au test ADN, il accepta étonnamment après un silence, déclarant qu'il en avait assez de cette persécution et voulait prouver son innocence. Pendant l'attente des résultats de l'expertise, les policiers commencèrent à fouiller les vieilles archives et les effets personnels de Sullivan, essayant de trouver le moindre lien avec ce qui s'était passé au milieu des années 90. Ils examinèrent chaque papier, chaque vieil album, chaque lettre qu'ils purent découvrir dans sa maison. Et voilà qu'en fouillant une pile de vieilles photographies jaunies par le temps, les détectives tombèrent sur une photo qui les glaça sur place. Sur la photographie, datée approximativement de 1994, était immortalisé un pique-nique, manifestement quelque part dans la forêt près de la ville. Parmi plusieurs personnes inconnues au premier plan était assis Sullivan lui-même, et à côté de lui, une fillette blonde qui ressemblait étrangement à l'image obtenue après la reconstruction faciale de la victime trouvée dans la cave. Tous deux souriaient, comme s'ils étaient très proches. Les policiers, stupéfaits par la découverte, envoyèrent immédiatement la photo pour une expertise supplémentaire. Sullivan, pendant ce temps, restait au poste de police, totalement convaincu qu'il serait bientôt libéré. Et il avait raison, le résultat du test ADN revint négatif. Sullivan n'était pas l'homme dont la trace génétique avait été laissée sur les lieux du crime. Malgré cela, la police le convoqua de nouveau pour interrogatoire. Lorsqu'on lui montra la photographie, l'expression de Sullivan changea pour la première fois en une véritable confusion et anxiété. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes, examinant la photo, puis admit à contre-cœur qu'il connaissait effectivement la fillette, mais refusa d'expliquer qui elle était, déclarant qu'il ne se souvenait pas des détails de ce jour-là. Les détectives insistèrent, mais Sullivan répéta obstinément qu'il avait tout oublié. Il avait l'air épuisé, comme si la simple pensée du passé lui causait de la douleur. Après l'interrogatoire, la police dut le laisser rentrer chez lui, faute de motifs sérieux pour le retenir. Mais la photo était déjà devenue une sensation au sein du service de police. Le lendemain, d'autres photographies furent trouvées dans les archives, prises à la même période, sur lesquelles figuraient les mêmes personnes. Au centre du groupe se trouvait à nouveau la même fillette blonde, et à côté d'elle, sur plusieurs clichés, se tenait un homme que personne de la police n'avait vu auparavant et dont les témoins n'avaient pas parlé. Les enquêteurs commencèrent à vérifier les anciennes listes d'habitants, les archives des écoles, les photographies des journaux locaux, essayant d'établir l'identité de l'inconnu. Mais il semblait s'être dissous dans le temps, ne laissant derrière lui que des contours flous sur le vieux papier photographique. La ville replongea dans une attente pesante. Sullivan sortait maintenant rarement dans la rue, évitait les regards des voisins et avait presque cessé de communiquer même avec ses proches. Il devint encore plus renfermé qu'auparavant, et il semblait qu'il était tourmenté non seulement par les soupçons de la police, mais aussi par quelque chose de beaucoup plus profond et douloureux. Les policiers continuaient à examiner silencieusement les vieilles photos, ressentant l'anxiété de voir la résolution de l'affaire s'éloigner de plus en plus. Aucun d'eux ne se doutait alors que la prochaine découverte, faite presque par hasard, changerait leur perception de tout ce qui semblait clair et les obligerait à regarder d'un œil nouveau chaque personne de cette paisible petite ville. Alors que les habitants de la petite ville se repliaient définitivement sur eux-mêmes, l'équipe d'enquête continuait de passer en revue sans succès des dizaines de photographies et de documents d'archives, essayant de saisir le moindre indice. Finalement, dans l'une des vieilles boîtes de documents, une lettre fut découverte, qui s'avéra être la clé d'une nouvelle piste. La lettre était écrite à la main par l'ancien propriétaire de la maison lui-même, Patrick O'Connor, à la fin des années 90. Il y mentionnait son frère, Thomas O'Connor, avec qui il n'avait plus de contact depuis de nombreuses années. Les enquêteurs remarquèrent que Patrick décrivait son frère comme une personne au caractère complexe, colérique et instable, dont l'apparition en ville était toujours liée à des ennuis. La police convoqua immédiatement Patrick pour un nouvel interrogatoire qui se déroula cette fois dans une atmosphère tendue, presque sans pause ni ménagement. Les enquêteurs étaient déterminés. Patrick semblait fatigué et irrité. Mais cette fois, il n'esquiva pas et raconta beaucoup plus qu'auparavant. Selon lui, Thomas était effectivement venu en ville vers le milieu des années 90, précisément à la période où tout s'était passé. Patrick se souvenait que son frère avait l'air épuisé et était constamment au bord de la crise de nerfs. Leur relation était si tendue que Patrick avait demandé à son frère de quitter sa maison dès le troisième jour de son séjour. Après cela, ils ne se sont plus jamais parlé. Les enquêteurs consultèrent à nouveau les archives et trouvèrent des enregistrements confirmant que Thomas O'Connor était effectivement en ville pendant la période indiquée. Ils réussirent également à trouver des témoins qu'il avait vus à ce moment-là. L'une des voisines se souvenait clairement comment Thomas marchait dans la rue tard le soir, parlant tout seul et exprimant une certaine agressivité par geste. Il suscitait chez les gens un sentiment d'anxiété et d'appréhension. Mais personne n'osait s'adresser à la police, mettant cela sur le compte de conflits familiaux ordinaires. Le même jour, les détectives trouvèrent plusieurs autres vieilles photographies de Thomas, les comparant à la photo trouvée précédemment, où figurait cette même invitée blonde. L'homme sur les photos ressemblait si fortement au frère de l'ancien propriétaire de la maison que les enquêteurs n'avaient presque plus de doute. L'enquête décida de retrouver Thomas de toute urgence, estimant qu'il pouvait être directement lié au crime commis. Cependant, localiser Thomas O'Connor s'avéra beaucoup plus compliqué que prévu. Il n'avait pas de domicile officiel, n'avait pas payé d'impôts depuis longtemps et n'était pratiquement mentionné nulle part ces dernières années. Son nom était absent même des bases de données officielles des États, ce qui parut très étrange aux enquêteurs. Patrick avoua qu'il n'avait plus eu de contact avec son frère depuis plus de 20 ans et n'avait aucune idée s'il était encore en vie. La police envoya plusieurs demandes aux États voisins, tout en continuant d'interroger les personnes qui pouvaient se souvenir de Thomas. Bientôt, une réponse arriva du Massachusetts. Dans la base de données de la police locale, un rapport d'accident de la circulation survenu à l'hiver 1998 fut trouvé. Le nom de Thomas O'Connor figurait dans le rapport. L'homme était mort sur les lieux de l'accident. Et cela fut officiellement confirmé par des documents et les résultats de l'expertise. Cette nouvelle fut un choc pour l'enquête, car Thomas, qui semblait être le suspect idéal, sortait à nouveau du tableau du crime. Patrick n'apprit la mort de son frère que par les policiers et fut bouleversé par ce qu'il entendit. Il semblait désemparé et sincèrement affligé, et il était évident qu'il ne pouvait pas savoir que son frère était mort plus de 20 ans auparavant. La police décida cependant de vérifier minutieusement les circonstances de la mort de Thomas. Au cours de l'enquête, il s'avéra que l'accident était effectivement banal et s'était produit de sa faute. Sur une route verglacée, Thomas avait perdu le contrôle de sa voiture et avait heurté un arbre. Aucune circonstance suspecte ne fut révélée, et Thomas menait à l'époque un mode de vie extrêmement renfermé et solitaire, ne communiquant pratiquement pas avec son entourage. La raison de sa venue dans la petite ville quelques années avant sa mort restait floue, mais aucune trace évidente le reliant au crime ne fut trouvée. Tandis que les enquêteurs replongeaient dans l'incertitude, les habitants de la petite ville continuaient de vivre douloureusement sous la pression d'une peur constante. Personne ne savait plus à qui faire confiance. Nikki cachait simplement quelque chose de terrible. Chaque nouvelle découverte, chaque nouveau nom, suscitait encore et encore l'anxiété, ne laissant aucune minute de répit aux gens habitués à une vie tranquille. Patrick O'Connor, après tous ces événements, préféra quitter définitivement la petite ville. Il vendit tous ses biens et quitta l'endroit auquel était lié un chapitre si sombre de sa vie. La maison d'en face, appartenant au voisin Sullivan, sombra au contraire dans un isolement et une aliénation encore plus grands. Benjamin Sullivan sortait rarement de chez lui, évitant les regards des passants et cherchant manifestement à se cacher des yeux des autres. Et la photographie qui avait déclenché une nouvelle vague d'enquête reposait désormais dans les archives de la police, et on ne la regardait presque plus. L'homme qui y figurait, Thomas O'Connor, était resté à jamais dans le passé, emportant avec lui le secret de ses venues et les véritables raisons de ses actes. Personne ne pouvait plus lui demander ce qu'il avait fait dans cette maison, ce qu'il savait de ce qui se passait et ce qui s'était réellement produit en ces jours sombres des années 90. Après que la figure de Thomas O'Connor eut définitivement disparu du tableau de l'enquête, les détectives décidèrent de revenir minutieusement au tout début, espérant découvrir des détails qui avaient été manqués dans les premiers jours de l'enquête. Désormais, une attention particulière était accordée aux personnes qui vivaient à proximité immédiate de la funeste maison de Chestnut Street, à l'époque même où le crime avait été commis. L'une des témoins clés était une femme âgée nommée Emily Harper, qui avait vécu dans la rue toute sa vie. Au début, Emily, invoquant son grand âge et sa mémoire défaillante, ne voulait pas parler à la police. Mais après de longues persuasions, elle accepta de raconter le peu qu'elle savait. La femme parlait lentement, s'arrêtant longuement, comme si elle passait soigneusement en revue les événements du passé dans sa mémoire. Emily se souvint comment, un jour au milieu des années 90, elle avait été témoin d'un événement étrange. Tard le soir, vers minuit environ, elle avait vu par la fenêtre de sa maison une voiture garée près de la maison numéro 17. Dans la voiture était assise une personne dont le visage était caché par l'obscurité. La voiture n'éteignait pas ses phares, comme si le conducteur attendait quelqu'un. Quelques minutes plus tard, un homme inconnu s'approcha rapidement de la voiture, monta sur le siège passager et la voiture partit. La femme n'avait jamais vu cette voiture auparavant et ne savait pas qui étaient ces personnes. Les policiers écoutèrent attentivement Emily et tentèrent d'obtenir des détails supplémentaires. La couleur de la voiture, la plaque d'immatriculation ou la marque, mais la mémoire faisait déjà défaut à la témoin. Tout ce dont elle se souvenait, c'était le comportement inhabituel des inconnus et le sentiment d'anxiété qui l'avait envahi ce soir-là. Pendant ce temps, les experts techniques de la police décidèrent de revenir à l'examen détaillé du fût lui-même et de la pièce où il avait été découvert. L'attention des criminalistes fut attirée par des traces à peine visibles sur le sol de la cave, ressemblant à des éraflures dues au déplacement d'un objet lourd. Après une expertise supplémentaire, les spécialistes conclurent « Le fût contenant la découverte aurait pu être déplacé dans la cave quelque temps après la commission du crime. » Cette version provoqua un véritable bouleversement dans l'esprit des détectives, ouvrant de nouvelles pistes d'événements. Désormais, l'hypothèse que le crime ait pu se produire dans un tout autre lieu et que les restes aient été placés dans la cave plus tard, apparut. De nouveaux interrogatoires intensifs des habitants commencèrent, cette fois axés sur la période postérieure aux années 2000. Les enquêteurs vérifièrent tous ceux qui avaient résidé dans la maison après Patrick O'Connor. Parmi les locataires se trouvait une personne dont le comportement attira immédiatement l'attention de la police. Il s'agissait de Robert Harris, qui avait loué la maison entre 2004 et 2006. Il avait rapidement quitté la ville, prétextant un changement de travail, et n'était jamais revenu. Lorsque la police retrouva Robert Harris dans un état voisin, il accepta d'abord volontiers de parler. Cependant, en apprenant le sujet de la conversation, il se referma brusquement et refusa presque complètement de faire d'autres commentaires. On découvrit bientôt que Harris avait un casier judiciaire pour violence domestique, mais aucun crime grave ne lui avait été imputé. Néanmoins, la police insista pour vérifier un échantillon de son ADN qu'il fournit après de longues persuasions. Le résultat s'avéra négatif. Mais le principal résultat de cette étape de l'enquête fut que les détectives se convainquirent définitivement que le crime et le déplacement des restes auraient pas pu être commis à des moments différents par des personnes différentes. Peut-être qu'un des locataires, découvrant une trace du passé d'autrui, s'était simplement débarrassé de la découverte indésirable en la plaçant dans un coin reculé de la cave, ne voulant pas avoir affaire à la police. Cette hypothèse expliquait pourquoi personne n'avait rien remarqué ni dit pendant si longtemps. Les gens ne voulaient tout simplement pas être entraînés dans les problèmes des autres, et encore moins dans une affaire criminelle. Mais, d'un autre côté, cela rendait tout ce qui s'était passé encore plus sombre et effrayant. Il s'avérait que plusieurs personnes auraient pu être impliquées, directement ou indirectement, dans le crime. Dans une tentative de comprendre quelque chose, les enquêteurs convoquèrent à nouveau Benjamin Sullivan, le voisin âgé, pour un nouvel interrogatoire. Il avait maintenant l'air fatigué, ayant presque totalement perdu l'envie de résister. Sullivan confirma qu'il avait vu Robert Harris et d'autres locataires à plusieurs reprises, mais n'avait jamais parlé personnellement avec aucun d'eux. Il avoua également qu'au début des années 2000, il avait vu des inconnus qui transportaient quelque chose dans la maison. À la question de savoir pourquoi il n'en avait pas informé la police plus tôt, Sullivan répondit sèchement « Ce n'était pas ma maison et pas mes problèmes ». Maintenant, de nombreuses années plus tard, sa réponse ne sonnait pas seulement froidement, mais aussi d'une indifférence effrayante. Après cette conversation, la police décida que Sullivan ne cachait vraiment rien et n'était très probablement pas impliqué dans ce qui s'était passé. Néanmoins, les détectives ne pouvaient se défaire du sentiment qu'il en savait plus qu'il ne le disait et qu'il était simplement fatigué de résister au passé. Finalement, dans les archives de la bibliothèque municipale, trouvées par hasard lors de la vérification de documents de presse, les enquêteurs tombèrent sur un article de 1995. Il y était question d'un incident mineur. Un homme inconnu avait été aperçu près de la maison numéro 17 sur Chestnut Street, après quoi il avait rapidement disparu. L'article ne contenait pas de détails, si ce n'est que l'homme avait paru suspect aux habitants locaux. Aucune photographie n'accompagnait l'article, mais la mention de cet homme suscita à nouveau des pensées troublantes dans l'esprit des policiers. Essayant de comprendre ce qui pouvait relier toutes ces personnes et événements, les détectives examinèrent une fois de plus les vieilles photographies, lettres et documents. Mais les réponses leur échappaient, ne laissant qu'un sentiment d'impuissance et de désespoir. Bientôt, les habitants de la petite ville apprirent que la maison numéro 17 était de nouveau en vente pour une somme symbolique. Personne parmi les locaux n'envisagea même de l'acquérir, comme s'ils comprenaient déjà que le sombre secret était lié à jamais à cet endroit. La maison tomba progressivement en ruine, devenant le symbole du fait que le crime qui s'y était produit avait divisé à jamais la vie de la petite ville en un avant et un après. Pendant ce temps, l'enquête se concentrait de plus en plus sur la famille de l'ancien propriétaire de la maison, Patrick O'Connor. Après de longues et pénibles négociations avec des parents éloignés de la famille, un détail important fut découvert, qui était resté caché jusqu'alors. Thomas, le frère décédé de Patrick, avait effectivement une fille que personne dans la famille n'avait vue depuis plus de 25 ans. Son nom était Jennifer. L'histoire de Jennifer s'avéra si complexe et sombre que même les parents eux-mêmes en parlaient à contre-cœur. La mère de Jennifer, dont Thomas était divorcé depuis longtemps, ne communiquait pratiquement pas avec la famille O'Connor après la rupture. Les parents avouèrent qu'après le divorce, Thomas s'était disputé à plusieurs reprises avec son ex-femme au sujet de leur fille, insistant pour qu'elle vive avec lui. Après l'un de ces conflits, survenue vers le début de 1995, Jennifer avait été emmenée par Thomas, et après cela, aucun des parents ne l'avait revue ni entendu parler d'elle. Ayant obtenu cette information, la police convoqua immédiatement Patrick O'Connor pour un nouvel entretien. Cette fois, Patrick semblait abattu et nerveux, ne s'attendant manifestement pas à ce que de vieux secrets de famille refassent surface. Il resta longtemps silencieux avant de parler. Selon lui, Thomas avait effectivement mentionné sa fille lors de leur dernière rencontre, mais en parlait comme s'il avait des difficultés constantes avec elle. Cependant, Patrick affirma catégoriquement qu'il n'avait jamais vu Jennifer personnellement et ne savait rien de son sort ultérieur. Il ne soupçonnait même pas que son frère ait pu l'amener en ville à cette époque. Pendant ce temps, la police vérifiait méticuleusement toute information concernant Jennifer. Les enquêteurs contactèrent sa mère, vivant dans un autre état, qui confirma que Thomas avait effectivement emmené leur fille après un conflit. La femme raconta que dans les derniers jours avant que son père ne l'emmène, Jennifer avait l'air très effrayée et ne voulait pas partir avec lui. Après sa disparition, elle avait tenté de la retrouver par l'intermédiaire de la police, mais Thomas changeait constamment de lieu de résidence et la police des différents états lui refusait son aide, considérant cela comme un conflit familial interne. L'expertise ADN confirma entre-temps les pires craintes des enquêteurs. Les restes trouvés dans la maison numéro 17 appartenaient bien à Jennifer. La police se trouvait maintenant face à une terrible réalité. La parente de Patrick, la fille de Thomas, que l'on croyait simplement disparue depuis de nombreuses années, avait été là tout ce temps et personne ne s'en était douté. Lorsque cette information fut communiquée à Patrick, il parut absolument anéanti. L'homme ne comprenait manifestement pas comment une telle chose avait pu se produire littéralement sous ses pieds. Il insista sur le fait que Thomas n'avait jamais mentionné avoir amené Jennifer dans la maison de Chestnut Street. Cependant, la police doutait de ses paroles. Il était clair que Patrick tentait de se distancier au maximum du terrible crime qui s'était produit dans sa propre maison. Les parents, apprenant la vérité, furent également choqués et commencèrent immédiatement à émettre leurs propres hypothèses. Beaucoup d'entre eux considéraient Thomas capable d'un tel crime, compte tenu notamment de son caractère difficile et de sa tendance à l'agressivité. Selon eux, la cause de la tragédie aurait pu être qu'il n'avait pas réussi à élever sa fille et avait décidé de résoudre ainsi les problèmes rencontrés. Cette version fut activement discutée parmi les parents, convaincus que c'était bien Thomas le coupable de la tragédie. Cependant, malgré ce tableau si clair, les criminalistes s'attendaient à un nouveau rebondissement qui fit douter les enquêteurs de la véracité de cette théorie. Les résultats d'une nouvelle analyse de l'ADN trouvée sur la couverture montrèrent que le matériel génétique n'appartenait pas du tout à Thomas O'Connor. De plus, cette trace génétique indiquait clairement un parent de la famille et qui plus est, une personne qui était en vie et avait vécu tout ce temps à proximité du lieu du crime. Cette nouvelle secoua non seulement la police, mais aussi les membres de la famille eux-mêmes. Les soupçons se déplacèrent désormais sur quelqu'un qui n'avait même pas attiré l'attention de la police auparavant. Les enquêteurs comprirent que le criminel s'était trouvé tout ce temps à proximité, certain de son impunité absolue. Et maintenant, la tâche n'était plus qu'une. Déterminer précisément qui, parmi les membres de la famille, avait pu cacher un secret aussi terrible pendant tant d'années. La vérification suivante concerna tous les parents résidant dans la ville et ses environs. Parmi eux se trouvait le cousin germain de Thomas et Patrick, William O'Connor, un homme que l'on avait toujours considéré comme un membre exemplaire de la société. Il travaillait comme comptable, vivait tranquillement et modestement, participait régulièrement à la vie publique de la ville et n'avait jamais éveillé les soupçons. C'est pourquoi, lorsque la police le convoqua pour interrogatoire et exigea un échantillon d'ADN, il fut stupéfait et même offensé par une telle approche. William fournit l'échantillon d'ADN sans résistance, affirmant avec assurance qu'il n'avait rien à cacher et que la police perdait simplement son temps. Pendant que les criminalistes attendèrent les résultats, les enquêteurs commencèrent à vérifier attentivement le passé de William. Il s'avéra que, malgré sa réputation impeccable, il avait eu de petits problèmes avec la loi dans sa jeunesse, notamment pour harcèlement envers des femmes, mais il avait alors réussi à éviter une peine sévère. Les parents racontèrent que William avait toujours été trop renfermé et essayait de se tenir à l'écart des événements familiaux, préférant sa solitude. Ces détails alertèrent l'enquête. Et voilà, quelques jours plus tard, les résultats de l'analyse ADN arrivèrent. Le résultat fut sans équivoque, la trace appartenait bien à William O'Connor. Lorsque les enquêteurs lui annoncèrent cette nouvelle, William perdit pour la première fois son calme et commença à être visiblement nerveux. Il resta silencieux quelques minutes, puis déclara qu'il avait besoin d'un avocat. La police comprit enfin qu'elle était sur le point de résoudre l'un des crimes les plus terribles de l'histoire de la petite ville, et il ne restait plus qu'à obliger William à raconter la vérité sur comment et pourquoi il avait commis ce qui avait choqué toute la ville après tant d'années. Après avoir obtenu les résultats ADN irréfutables, William O'Connor se trouvait en cellule de détention provisoire, en attente de son interrogatoire. Tous ceux qui le connaissaient personnellement ne pouvaient croire que cet homme calme et discret soit impliqué dans un crime aussi cruel. Néanmoins, les faits parlaient d'eux-mêmes. Sa trace génétique ne laissait aucun doute à la police quant à son implication dans les événements qui avaient secoué toute la ville. L'interrogatoire dura plusieurs heures. Initialement, William refusa catégoriquement d'admettre sa culpabilité et même de parler de ce sujet. Mais les enquêteurs lui présentèrent non seulement les résultats ADN, mais aussi des détails qui prouvaient de manière convaincante son implication. Finalement, après une longue pression et des appels répétés à dire la vérité, il céda enfin. Lorsque William commença à raconter, un silence oppressant s'installa dans la salle d'interrogatoire. Il parlait lentement et doucement, s'arrêtant parfois, comme s'il essayait de comprendre comment il en était arrivé à prononcer à voix haute cette terrible vérité pour la première fois. Il s'avéra qu'au milieu des années 90, Thomas, le père de Jennifer, était effectivement venu voir son frère Patrick en ville. Avec lui se trouvait sa fille, que Thomas ne pouvait pas laisser à la maison en raison du conflit avec sa mère. Arrivé en ville, Thomas s'installa chez Patrick, mais leurs relations se détériorèrent rapidement. Thomas demanda alors à William, qui vivait dans la maison voisine et était leur cousin germain, de s'occuper de Jennifer pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il règle ses affaires avec Patrick. Au début, William accepta, car personne ne soupçonnait rien de mal chez lui, et Jennifer elle-même se sentait assez à l'aise dans sa maison. Cependant, après un certain temps, elle commença à s'inquiéter, à demander quand son père reviendrait et à demander constamment à rentrer chez elle. Cela commença à irriter William, qui n'était pas habitué à la présence d'autres personnes dans sa maison et perdait rapidement patience. Un soir, un conflit éclata entre eux. Jennifer tenta de quitter la maison, mais William, craignant qu'elle ne raconte aux parents son comportement brutal, l'arrêta en utilisant la force. La situation dégénéra rapidement et William, perdant son sang-froid, commit l'acte terrible qui fut découvert de nombreuses années plus tard dans la maison de Patrick. Après l'incident, il paniqua et tenta de se débarrasser des traces. Profitant du départ temporaire de Patrick et de l'absence de Thomas, il pénétra dans la maison de son parent et plaça les restes dans le fût métallique, qu'il cacha ensuite dans la cave, parmi les vieux détritus et les gravats de construction. Il était convaincu que personne ne découvrirait jamais ce qu'il avait fait. Après tout, la maison était abandonnée et Patrick allait bientôt quitter la ville. Au fil du temps, William se persuada presque que cela n'était jamais arrivé. Il reprit une vie normale, continua à travailler comme comptable, maintint sa réputation de citoyen exemplaire et évita tout soupçon. Parfois, il passait devant la maison de Chestnut Street, mais à chaque fois, il s'obligeait à ne pas penser à ce qui s'était passé, espérant qu'avec le temps, son crime serait oublié et resterait à jamais un secret. Pendant ce temps, Thomas, ne retrouvant pas Jennifer à son retour en ville, pensa que la jeune fille s'était enfuie chez sa mère. En raison des nombreux conflits et de l'aversion mutuelle, ils ne communiquaient pratiquement pas, de sorte que ni Thomas ni la mère de Jennifer n'apprirent jamais la vérité sur son sort. Ils se blâmèrent mutuellement pour sa disparition et n'essayèrent pas de clarifier la situation jusqu'au bout. Patrick non plus ne savait rien de ce qui s'était passé. Il vendit simplement la maison et partit, fatigué des problèmes sans fin avec son frère. Ainsi, cette tragédie resta complètement cachée à tous ses participants. Et seul William, restant l'unique gardien du terrible secret, vécut toute sa vie avec le lourd fardeau de sa culpabilité. Après les aveux de William, la petite ville sombra dans le choc. Personne ne pouvait croire qu'un homme calme et discret ait caché un crime aussi cruel pendant tant d'années. La famille O'Connor fut complètement détruite par cette nouvelle, et de nombreux parents cessèrent à jamais de se parler, se sentant coupables de n'avoir rien remarqué d'anormal. William fut arrêté et placé en détention, en attendant son procès. Ses avocats insistèrent sur une expertise psychiatrique, affirmant qu'il avait agi sous le coup de l'affect, sans être pleinement conscient de ses actes. Mais la majorité des habitants de la petite ville ne voulurent pas croire à cette version. Ils exigèrent la peine la plus sévère, estimant que la justice devait triompher pleinement, malgré les années écoulées. Bientôt, William O'Connor fut déclaré pleinement responsable de ses actes. Le procès se déroula rapidement et le verdict fut sévère. Pour beaucoup, ce fut un soulagement. La ville pouvait enfin clore l'affaire qui avait tourmenté chacun de ses habitants pendant plus de 20 ans. La maison de Chestnut Street resta abandonnée et indésirable. Les habitants locaux l'évitaient, croyant que le mal qui s'y était installé un jour ne quitterait jamais cet endroit. Progressivement, le bâtiment se dégrada, sombrant dans l'abandon et l'oubli. Mais l'essentiel, que tous les habitants de la petite ville savaient désormais, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Même la plus terrible, même celle que l'on tente de cacher derrière les murs d'une vieille cave, parmi des fûts rouillés et des objets oubliés.